Bah, ce soir, j'ai décidé de commenter l'actualité parce qu'on se pose tous plus ou moins des questions par rapport à tout ce qui se passe au Japon, dans les pays arabes et dans le monde en général. Et il faut aussi trouver une réponse, sur une réponse biblique par rapport aux événements. Donc, toute la semaine a été animée par le tremblement de terre au Japon, puis les différents rebondissements avec les centrales nucléaires. Et tous les problèmes qui étaient liés. Et aujourd'hui, ça continue avec Kadhafi, la Libye, la résolution de l'ONU, l'intervention militaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un tumulte au milieu des nations. Donc, tumulte, c'est un brouhaha, de l'agitation. Le monde est en ébullition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses sont très agitées en ce moment. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, ben, Seigneur, on voit, on sait que toutes ces choses vont arriver, on sait que dans la fin des temps, il va y avoir des troubles au milieu des nations, que ça va partir dans tous les sens, que l'Antéchrist va monter, qu'il y aura des bouleversements de toute nature, comme les tremblements de terre, hein, ça c'est directement Jésus qui nous l'a dit, hein, qu'il y aura une nation contre une nation, il y aura des tremblements de terre, des famines, toutes ces choses-là. Donc par rapport au séisme, j'ai posé des questions, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en ce moment ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait comme ça? Parce que moi, ce que je dis, la manière dont je vois les choses, c'est que le monde tel qu'il évolue, les événements tels qu'on les voit actuellement, ils vont crescendo parce que je compare ça aux contractions d'une femme enceinte. C'est vers un nouveau monde qu'on va, un univers nouveau qui sera géré par Christ. C'est l'accouchement d'un nouveau monde. Donc comme une femme, au fur et à mesure qu'on approche de l'expulsion, que l'enfant paraît, les contractions sont toujours plus rapprochées, toujours plus intenses. Donc, moi, je considère ça d'un point de vue biblique, et je me suis dit, au fur et à mesure qu'on va avancer vers notre nouveau monde, eh bien, on devrait voir des événements devenir toujours plus forts et de manière toujours plus rapprochée. Et ça va augmenter en intensité et en fréquence jusqu'à un moment donné où tout, au lieu de se suivre à la queue-leu-leu, va commencer à se superposer. Les événements, l'histoire va s'imbriquer en elle-même. Là où on se dit il y a une succession de séismes, là où on se dit il y a une succession de guerres, une succession de crises économiques ou de ceci ou de cela, à un moment donné, les événements deviennent tellement rapprochés les uns par rapport aux autres qu'ils se superposent. On va avoir simultanément une crise économique avec un gros tremblement de terre, en même temps avec une guerre, en même temps avec une famine, des choses comme ça. Ce qui fait que les choses s'additionnent. Ça prend une dimension tout à fait nouvelle parce que l'humanité peut s'adapter aux catastrophes, l'humanité peut s'adapter à beaucoup de choses, mais l'humanité ne peut pas s'adapter quand les choses s'intensifient en fréquence et surtout pas quand elles se superposent. On peut gérer à la queue-leu-leu les problèmes, mais on ne peut pas gérer tous les problèmes en même temps. Au bout d'un moment, ça ne va plus parce que tout simplement, humainement, c'est plus gérable. Quand vous avez une guerre dans un coin, une famine dans l'autre, un tremblement de terre ici, et puis celui-là. C'est comme si on fait des appels à la générosité pour aider un tel ou un tel. Si c'est partout, on ne sait même plus quoi faire et à qui demander pour aller où. Parce que c'est l'Afrique, c'est ici, c'est là-bas. Je rappelle que Haïti, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Et ça n'arrête plus hein, depuis. Et par rapport au séisme, je suis allé sur Wikipédia, et si vous tapez séisme sur Wikipédia et que vous regardez, ils ont trié les séismes depuis 100 ans, depuis qu'on fait des relevés, et ils ont pris les plus importants. Les plus importants, c'est ceux qui dépassent 8 sur l'échelle de Richter. Donc là, c'est déjà des vraiment importants, c'est vraiment des très gros séismes. 7, on considère que c'est déjà catastrophique, mais 8, on est presque hors norme. 9, on n'en parle même pas, là, c'est un désastre. Et j'ai regardé ça depuis 1900, surtout le 20e siècle. Donc, je les ai comptés, et on en a un, grosso modo, hein, un tous les 10 ans, au 20e siècle. En fait, il y en a eu 15, 14 ou 15, hein, je ne me rappelle plus exactement. Peu importe, mais on peut dire, hein, on va faire simple, un tous les 9 ans. 10 ans, vraiment un gros séisme à quelque part sur le monde. À votre avis, on en a eu combien depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant? On en a eu un tous les ans. On en a eu 10, une dizaine. À peu de choses près, un tous les ans. Et attention, pas des 8, Parce que quand je dis il y en a eu 15 pendant le XXe siècle, la plupart c'était des séismes de magnitude 8. Et de temps en temps, une fois tous les 20 ou 30 ans, il y en avait un de magnitude 9. Ce que je veux dire, c'est vraiment un très gros. Parce que les magnitudes 9 ont cette caractéristique, ils sont tellement violents qu'ils ont un impact planétaire. Ils changent en général une jbibounette de la rotation de la Terre ou de l'axe de la Terre. Bon, pas grand-chose, hein, c'est trois fois rien. Mais ça a un impact au niveau mondial. Et là, depuis l'an 2000, non seulement on a grosso modo un gros tremblement de terre supérieur à magnitude 8 tous les ans, mais on a des 9 qui s'intercalent dedans, Sumatra, maintenant le Japon, là récemment. Donc, vraiment, c'est flagrant, c'est vraiment pas anecdotique. On aurait pu dire, ouais, bon, pendant 2-3 ans, là, on en a eu un ou deux qui se sont enchaînés, c'est déjà exceptionnel en soi. Hein, deux tremblements de terre supérieurs à 8, deux années de suite, on aurait pu se dire, bon, ben, c'est le hasard, hein, mais pas comme ça. Là, on est vraiment dans une fréquence maintenant, c'est régulier. Et si on regarde ce qui s'est passé là récemment, ça tourne un peu en rond autour du Pacifique. Ça a commencé au Chili, Concepción, après c'est allé Nouvelle-Zélande, maintenant on est au Japon. En fait, ça tourne en rond autour de la plaque Pacifique. La plaque Pacifique, c'est une grosse plaque. Et on sait que les plaques tectoniques se baladent les unes par rapport aux autres. Et donc c'est toute la plaque Pacifique en ce moment qui bouge. Et toujours avec des gros tremblements de terre. Pas anecdotique, c'est. Le Concepción, là, c'était un œuf, hein, au Chili. Donc, celui-là aussi, il a fait bouger l'axe de la Terre. Celui-là du Japon, il a fait pareil. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et si on continue, hein, si on s'imagine que c'est un cadran de montre, et puis que ça tourne comme ça autour de la plaque Pacifique, bah, à un moment donné, fatalement, on va arriver sur la Californie, hein, qui est le gros truc. Si ça frappe la Californie, sachant qu'il y a un Big One tous les 100 ans, grosso modo, aux États-Unis, qui n'en a pas eu depuis 1905. Donc, à n'importe quel moment, maintenant, on peut s'en prendre un gros en Californie. Sachant qu'en Californie, ces imbéciles ont eu l'idée géniale de construire des centrales nucléaires aussi sur des failles. Donc, la stupidité humaine n'ayant pas de limite, ils n'apprennent rien. Ils font n'importe quoi, n'importe où. Ils savent qu'ils auront un jour un gros tremblement de terre, ils n'ont rien trouvé plus génial à faire que de mettre une centrale nucléaire sur une faille sismique majeure, sachant qu'ils vont avoir de gros pépins un jour ou l'autre dans ce secteur. Donc il faut s'attendre à ce que dans les années à venir, hein, ça secoue beaucoup là-bas, sachant ce que ça représente la Californie. Californie, c'est quand même l'État le plus riche des États-Unis, hein. C'est la référence, hein, c'est l'American Dream. C'est le rêve américain, c'est voilà, hein, Hollywood et tout ça, Silicon Valley. Donc si ça bouge là-bas, de manière grave, avec de grosses destructions, l'impact, comme au Japon, sera de même ampleur, parce que c'est, comment dire, des nœuds dans le filet, comme ça, parce qu'aujourd'hui tout est mondialisé, tout est lié ensemble. Avec la globalisation et la mondialisation, bah, l'économie, l'industrie, le commerce, le tourisme, toutes ces choses-là sont reliées ensemble, comme un filet qui recouvrirait le monde, comme ça, avec des gros nœuds à droite, à gauche, qui sont un peu plus importants que les autres, pour des raisons stratégiques, politiques, économiques. On sait que l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est important à cause du pétrole. Donc, s'il se passe quelque chose là-bas, bah, forcément, ça va avoir une répercussion au niveau énergétique mondial. S'il se passe quelque chose au Japon, bah, c'est quand même le pays le plus développé, le plus avancé dans la construction, de la fabrication d'un certain nombre d'éléments technologiques. Donc, si cela ne produisent pas, ça va avoir une influence. C'est aussi un grand pourvoyeur de fonds pour les États-Unis. Parce que le Japon, il a financé pendant longtemps une grosse partie du déficit américain. Ça, ils ne vont plus pouvoir le faire, donc ça va avoir des répercussions. La Californie, hein, bah, tout le monde sait, hein, Silicon Valley, les startups, les machins, les trucs et les bidules, Microsoft, ceci et cela. Donc si ça secoue et puis qu'il y a beaucoup de destruction là-bas, on peut s'imaginer un peu les répercussions que ça va avoir. Donc, cette histoire de tremblement de terre, c'est pas quelque chose qui est anodin, ce ne l'est plus aujourd'hui. Hein, quand ça se passait dans un pays du tiers-monde, bon, regardez ça comme une curiosité, Haïti, c'était, ouais, bon, voilà, c'est Haïti, 200 000 morts. Ça émeut, hein, ça touche, et voilà, ça va pas bouleverser le monde. Ça touche Haïti, c'est regrettable, c'est une catastrophe humanitaire, mais c'est pas une catastrophe planétaire. Or, aujourd'hui, là, ce qui se passe au Japon, c'est un impact planétaire. Et a fortiori, avec leur histoire de centrales nucléaires là, qui dégazent dans l'atmosphère, ça stresse un peu tout le pourtour là, du Japon, la Russie, la Chine, l'Indonésie, enfin tous ces pays-là, ils paniquent parce qu'ils ont tous peur de se prendre une dose de radiation. On se rend compte qu'aujourd'hui, au sein des nations, il se passe quelque chose. Il faudrait être aveugle ou inconscient pour le renier, hein, pour pas le voir. Et c'est ça que moi je veux traiter aujourd'hui. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de connaître la pensée de l'Éternel par rapport à ces choses-là et y apporter une réponse. Une réponse qui est une réponse biblique. Malheureusement, hein, la Bible c'est quand même notre lumière numéro un. Déjà, elle nous explique que toutes ces choses vont arriver. Donc on n'a pas à être surpris. Ça c'est la première des choses. Et on n'a pas à être étonné. Parce que le Seigneur Jésus nous a clairement dit les choses. C'est pas comme un songe ou une vision, il faut interpréter ou peut-être on comprend pas bien, on sait pas si c'est une figure allégorique, on sait pas si c'est une image, s'il faut l'interpréter, s'il faut le prendre au pied de la lettre. Non, là le Seigneur il a dit écoutez, c'est pas compliqué, quand je vais revenir il y aura ça. Il n'y a pas d'interprétation. Et parmi le ça, parmi les éléments qui précèdent le retour du Seigneur, eh ben, il y aura les tremblements de terre. Donc on sait que quand le Seigneur reviendra, ben, ces choses-là vont être des éléments annonciateurs. Donc, puisque la parole est tellement précise sur ces choses-là, donc il faut qu'elle nous aide pour tout le reste. Il faut qu'elle nous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir être prêt pendant ces temps-là. Donc, par rapport à ça, j'ai choisi deux textes qui me paraissent particulièrement appropriés, c'est psaume 1 et 2. Donc, le psaume 2, bon, c'est David qui parle, mais ça ne le concerne pas, ça concerne le Messie, on veut immédiatement comprendre pourquoi. Et le psaume 1, ça nous concerne, nous. Donc, je vais vous lire les psaumes, après on va les commenter, puis on va voir plus loin. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Voilà, quand on lit ça, ben on comprend que l'homme qui a reçu son onction, c'est loin de l'Éternel. Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante. En leur tenant ce discours, moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui. Je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Donc là, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de David, mais qu'il s'agit bien de loin de l'Éternel, le Mashiach. Donc, quand Jésus-Christ reviendra, le domaine de son autorité sur la terre entière. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suiviez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Donc là, le Seigneur, 1000 ans avant qu'il vienne sur terre, 3000 ans avant son retour, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? trament toutes des complots. Pourquoi les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? On se rend compte que bah, finalement, il y a une coalition qui se fait contre l'Éternel, contre Jésus-Christ. Le monde ne veut pas de l'autorité de Dieu, ne veut pas de la royauté de Jésus-Christ. Et même s'ils ne s'entendent pas entre eux, même s'ils se querellent entre eux, mais quand il s'agit de l'Éternel, ben là, ils réussissent à former une coalition et à être d'accord. D'accord contre le Seigneur, contre l'autorité du Christ. Et ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Ils parlent de qui, là ? Ben, de Dieu et de l'homme qui a reçu son onction. Donc, on considère ça comme un emprisonnement. Ben, obéir à Dieu, à quelque part, ça serait se mettre dans des chaînes. C'est exactement l'inverse, en fait. Le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en tenant ce discours. « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Et il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Là, on a un schéma un peu directeur de la manière dont fonctionnent les choses, spirituellement parlant. Ici, sur Terre, les rois de la Terre s'accrochent à leur pouvoir, s'accrochent à leur autorité et sur leur domination. Et même s'ils trouvent le moyen de se faire la guerre les uns les autres, pour des raisons purement terrestres, dès qu'il s'agit de spirituel, bizarrement, là, ils sont tous d'accord. Là, ah non, on ne voulons pas de l'autorité de Dieu. Maintenant, par rapport à ça, quelle est la bonne attitude à avoir? Et pour moi, la bonne attitude à avoir, ben, c'est le psaume qui précède. On se pose même la question, les exégètes se sont posé la question si à l'origine ces deux psaumes ne formaient pas un psaume, parce que tellement ils sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. Dans le psaume 1, on peut lire ça. Alors, si je commençais par le psaume 2, c'est pour mettre le Seigneur à l'honneur. Déjà pour montrer quel est le comportement des hommes. Là, c'est la traduction semeuse, donc très vulgarisée. Hein, mais dans un verset, on peut lire « Quel est ce tumulte au milieu des nations ?» Et même, on peut continuer. Hein, si on voit ce qui se passe à la fin, c'est même plus qu'un tumulte. Là, c'est vraiment un désordre et le chaos. Et quelle doit être notre attitude? Comment devons-nous nous comporter au milieu de ce tumulte? Et là, le Seigneur, il a inspiré sa limite de cette manière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit quand revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, jour du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quand on regarde ça de loin, le Seigneur se met en opposition dans son autorité par rapport à l'autorité des rois de la terre. Et on sait qu'à la fin des temps, les hommes deviendront toujours plus méchants parce qu'ils se détourneront toujours plus des lois de l'Éternel. Et en fait, en agissant de cette manière, ils contestent l'autorité même de Dieu. Et ce que le Seigneur il attend de nous pour être épargné par rapport à ça, parce que les hommes, en se conduisant de cette manière, ils produisent un jugement contre eux-mêmes, pour ne pas être soumis aux affres et à la condamnation de l'Éternel et au jugement de l'Éternel, il faut que nous nous rapprochions de Dieu. Toute sa joie, l'homme la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc là, dans cette image d'arbre de vie, quand on vit de la parole de Dieu, comme je l'ai déjà souvent dit, et qu'on s'en imprègne, à quelque part, on devient le reflet de cette parole, devient nous-mêmes parole, devenons des paroles vivantes, et ce faisant, Nous sommes incorporés à l'arbre de la vie. Jésus, c'est le tronc, et nous, nous sommes les branches, nous sommes le feuillage. Et les fruits de l'arbre de vie, ce sont les fruits de l'Esprit. Donc ce que le Seigneur il attend de nous, c'est que nous le rejoignions, que nous l'écoutions et que nous ayons foi en lui. Ce faisant, ben, nous entrons dans le plan de Dieu. Et si on fait ça, on ne sera pas comme le reste du monde qui est jugé. Aussi, l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quand on arrive à la fin des temps et qu'on voit les choses arriver à un certain paroxysme et qu'on voit le monde qui est balayé, on a au moins cette assurance, ben c'est que si on reste près du Seigneur, ben on échappe à la ruine du monde, on échappe à toutes ces calamités, on échappe au jugement que le Seigneur il établit sur le monde. Par rapport à ces deux psaumes, j'ai trouvé un texte sur Internet que j'ai vraiment trouvé bien et que j'aimerais relire parce qu'il est riche d'enseignements. Comme je n'ai pas la science infuse, quand de temps en temps je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, j'aime le partager et j'aimerais bien partager ça avec vous. Alors là, l'auteur dit ça, le psaume nous parle de deux chemins sur lesquels chaque être humain se trouve. La voie des pécheurs qui mène à la ruine et la voie des justes qui mène au bonheur. Ce sont deux voies et deux destinées complètement opposées l'une de l'autre. Comme la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Ces deux voies font également allusion aux deux royaumes dans lesquels chaque être humain appartient, le royaume de Dieu et celui de Satan. Si chaque être humain, de par sa nature pécheresse, appartient au royaume des ténèbres dont Satan est le prince, sachons que Christ est venu pour nous délivrer du royaume des ténèbres et de Satan, afin de nous faire entrer dans son royaume éternel de lumière et d'amour. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 1, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Voilà le but de la venue de Christ ici-bas. C'était de payer le prix par son sacrifice à la croix, pour nous racheter, afin qu'en la foi en son nom, nous passions des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et que nous recevions par la foi dans le nom du Seigneur Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans Actes 26, on peut encore lire ça. Voilà encore pourquoi seul Jésus, le Fils de Dieu, est l'unique voie qui mène à la réconciliation, à la vie, et qui nous mène au Père et au bonheur. Donc là, on retrouve, développé, exprimé d'une manière un peu différente, bah, c'est ce qu'on a lu avant, hein, c'est que les hommes ont leur voie, ils vivent dans les ténèbres, ils vivent dans le péché, mais quand Jésus-Christ, on peut trouver la rédemption et rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. On retrouve dans les textes la même pensée. On se rend bien compte que c'est le Saint-Esprit qui inspire ces hommes. C'est le Saint-Esprit qui les pousse à écrire ces choses-là. C'est vraiment la parole de Dieu. Que ce soit Paul qui s'exprime ou le psalmiste, ils sont en accord. Ils sont en accord parfait. Surtout, si on unit les deux psaumes, le psaume 1 et le psaume 2, clairement, le psaume 2, il parle du Machia. Il parle du Christ à venir, qui doit venir régner sur le monde. Et si on met vraiment les choses en relation, l'homme qui vit selon le cœur de Dieu et le Machia, deux choses sont en accord parfait. Et intercalé là-dedans, eh bien, il y a toujours cette idée, bah, il y a les méchants d'un côté, et le bon, celui qui veut vivre avec le Seigneur, il y a les rois de la terre d'un côté, et le roi du ciel de l'autre. Le Seigneur met toujours les choses en perspective, afin qu'on se rende bien compte de la différence entre les deux. Tandis que ceux qui persistent à demeurer sur la voie des pécheurs iront à la ruine, à la perdition et au jugement éternel. C'est la Bible qui l'affirme. Ça, bah, on vient d'en lire des beaux morceaux. Là. Ainsi, le psaume 1 place chaque être humain devant un choix entre deux possibilités. Comme il est dit dans le livre du Deutéronome, « Vois, dit Dieu, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Choisir la vie, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Quant au psaume 2, il décrit d'une façon extraordinaire le Fils de Dieu, l'incarnation de Jésus-Christ, le Messie. Loin à qui Dieu le Père a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ce même témoignage du Père adressé à son Fils s'est fait aussi entendre lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Lorsqu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Père a réitéré encore ce même témoignage lors de la transfiguration de son Fils Jésus sur la montagne. Quand il est dit qu'une voix se fit entendre de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » L'apôtre Pierre fera encore allusion à cet événement dans sa seconde épître en disant « Nous avons vu la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix, dira Pierre, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ainsi le psaume 2 est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, car il apporte des paroles prophétiques qui se sont déjà réalisées par l'incarnation, la venue du Fils de Dieu parmi nous, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a également des paroles qui se réalisent aujourd'hui encore, comme le tumulte des nations qui s'opposent toujours à Dieu et à sa parole. Et nous y trouvons aussi des paroles prophétiques qui s'accompliront lorsque Jésus-Christ reviendra afin de régner ici-bas et qu'il pètera alors les nations avec une verge de fer. Actuellement, nous vivons encore le temps de la patience et de la grâce de Dieu et nous devons savoir que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, nous dit la Bible. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais ce refus et toute cette opposition au Fils de Dieu a une source diabolique, car c'est le diable qui aveugle les cœurs et l'intelligence des hommes. Comme l'apôtre Paul le mentionne dans 2 Corinthiens, en disant « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Oui, Satan fait tous ses efforts pour empêcher les hommes de comprendre la parole de Dieu et de connaître le Seigneur Jésus, de peur qu'ils ne le reçoivent comme leur Sauveur et Seigneur. Car il sait que le jour où ils invoqueront le nom du Seigneur, le jour où une personne fera appel à Jésus dans la repentance et la foi, elle sera sauvée, pardonnée, libérée des ténèbres. Elle aura la vie éternelle et cette âme lui échappera. Jésus lui-même l'a mentionné dans sa prière sacerdotale en disant « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est ainsi que Satan, le prince des ténèbres, essaye de conduire toute l'humanité dans la rébellion contre Dieu, contre son nom, le Seigneur Jésus-Christ est contre sa parole. Et c'est ce que le psaume 2 mentionne en disant « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom ?» Ceci fait allusion à toutes les oppositions au plan de Dieu parmi les hommes, à toutes les oppositions à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas, à toute rébellion contre la loi divine. Il est étonnant de voir comment les hommes parviennent à s'unir facilement quand il faut combattre la parole de Dieu, combattre la vérité et combattre Christ lui-même. N'est-il pas écrit que du temps de Jésus, les principaux sacrificateurs et les scribes, les chefs du peuple d'Israël, se sont ligués pour chercher le moyen de faire mourir le Seigneur? Et il est également mentionné que suite à l'arrestation de Jésus, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Il y a un dicton qui dit « Ceux qui se ressemblent s'assemblent ». Et encore, Dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es. Vous savez, face au Seigneur et à sa parole, il n'y a pas de neutralité possible. Car le jour vient où finalement les neutres s'unissent avec tous ceux qui s'opposent au Seigneur et se mettent à crier avec la foule en furie. Crucifiez-le, crucifiez-le. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et n'oublions pas qu'il est aussi écrit que nul ne peut servir de maître. C'est l'un ou c'est l'autre. Jésus l'a également mentionné en disant que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et il me semble que plus que jamais, les deux camps se distinguent très nettement. Les uns qui sont pour le Christ, c'est-à-dire pour que Christ seul règne dans leur vie, et les autres qui refusent la seigneurie de Jésus dans leur vie. Alors moi, je peux dire que amen quand je lis ça, parce que c'est vraiment un texte inspiré. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. On se rend compte que parmi les nations, il y a toujours plus d'événements qui s'enchaînent, il y a toujours plus de catastrophes. Et qu'est-ce qui se passe? On cherche des solutions humaines. Ils s'entraident les uns des autres. On envoie du matériel, on envoie des vivres, on envoie des médicaments, on fait ci. À aucun moment, tu entends des gens qui disent « il faudrait qu'on se remette en cause ». On pourrait peut-être revoir notre mode de pensée, notre manière de vivre. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est purement physique ou est-ce que c'est des choses qui ont été annoncées déjà? Parce que régulièrement, il s'élève des voix pour dire « mais attendez, c'est marqué dans la Bible, tout ce qui se passe actuellement, ça a été annoncé. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est à cause de votre comportement, c'est à cause de votre manière de faire, eh bien que... vous entrez en jugement contre Dieu, parce que vous refusez son autorité, parce que vous vivez d'une manière incorrecte, parce que vous vivez en contradiction avec sa parole, vous êtes des hommes pécheurs, vous êtes animés par le vice, vous aimez l'argent, et aujourd'hui, Dieu vous frappe de son jugement. Il y a des gens qui disent ça. Comment c'est relayé? Comment c'est relayé dans les médias? Là, dans Rue 89, encore, ils ont un article là-dessus, où ils disent les illuminés de la fin des temps, les maboules, les tarés, les apocalyptiques reviennent à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ils nous annoncent la venue imminente de Jésus-Christ, ils viennent de nouveau avec leur vieille lune. Finalement, c'est que la nature qui s'exprime, c'est que des tremblements de terre. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, il n'y a pas un dieu qui est venu sur terre ou un ange secouer le sol. On sait que c'est le magma, les plaques tectoniques, c'est scientifique, on peut l'expliquer en long, large et en travers. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Faux. C'est pas vrai. Si on revient sur les statistiques, comme je l'ai dit avant, pendant 100 ans, un gros tremblement de terre tous les 10 ans, manifestement, les choses augmentent en intensité. Et ça, c'est aussi scientifique. Et puis, je pourrais dire la même chose avec les cyclones, les ouragans. Les destructions qu'ils engendrent en ce moment sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître. Dans le temps, on en avait un qui s'abattait de temps à autre sur une région, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, les destructions s'enchaînent, et pas seulement chez nous. Toujours l'habitude de prendre en considération ce qui touche le monde occidental, l'Amérique, les îles, des choses comme ça, Cuba, le Mexique, mais ils dégustent pas mal ces derniers temps aussi en Asie. À chaque fois, ça fait des inondations gigantesques au Japon, en Chine, dans tous ces endroits-là. Donc, c'est même pas uniquement les tremblements de terre, mais c'est vraiment toutes sortes d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ça s'enchaîne comme ça de manière toujours plus rapide. Et puis, c'est biblique, c'est vraiment la parole de Dieu qui dit ça. Alors, quand on a quelques intellectuels qui viennent et qui disent « ouais, on arrête avec toutes ces bêtises, c'est éventuellement le réchauffement climatique qui peut provoquer ce genre de choses », oui, mais le climatique, il est provoqué par qui? Il est aussi provoqué par les hommes, leur manière de faire, avec leur fuite en avant industrielle, leur mode de consommation, toutes ces choses-là. Donc on fait fi aujourd'hui de tous les avertissements du Seigneur et on se comporte de la pire des manières. En prenant la politique de la croissance infinie, il faut toujours produire plus parce qu'on produit de la richesse. Ce n'est pas du tout ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas de courir après les richesses. Ce que le Seigneur il veut, c'est qu'on travaille pour vivre et qu'on consacre du temps pour lui. Et ça, les hommes ne le font plus, de moins en moins. Et donc, le résultat des courses, bah, c'est que plus les hommes se tourneront vers le mal, et plus ils se trouveront en contradiction avec la parole de Dieu, ils se mettront dans une situation de jugement. Le Seigneur a donné un temps à l'humanité, il a donné une période bien précise pour que les hommes puissent atteindre la grâce, puissent se tourner vers Dieu. Mais lorsque ce temps est échu, que ce temps de grâce est fini, est terminé, eh ben alors ils rentrent en jugement. On sait que d'autres passages dans la Bible nous disent « Quand vous verrez le figuier refleurir, le temps des nations sera fini. » Donc on sait que le temps de la grâce s'achève. À partir de ce moment-là, le Seigneur sera de moins en moins patient et agira de plus en plus. Et on sait que depuis qu'Israël existe, il y a une succession d'événements. Il y a la guerre des six jours, la guerre du Kippour. Chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le pétrole a augmenté, il y a la crise économique qui s'est mise en place. Les choses ont commencé à changer. Et maintenant, la crise économique, qui est, je veux dire, un moindre mal, à quelque part, s'ajoute à tout ça. C'est-à-dire la crise économique n'est pas arrêtée. Depuis les années 70, la croissance chute. Alors qu'on était dans un mouvement d'expansion, notamment dans le monde occidental, on devenait toujours plus riche. Depuis les années 70, on n'arrête pas de décroître. Et aujourd'hui, on est dans le négatif. Mais à ça se rajoutent encore de nouveaux éléments, qui sont des guerres, des maladies, des tremblements de terre, qui se superposent encore à tout ça. Et ça, dans une fréquence toujours plus rapprochée. Donc là, on est vraiment dans le contexte de la parole de Dieu, qui a annoncé ces choses-là, et qui a dit à un moment donné, bah, je ne supporterai plus, je ne supporterai plus votre rébellion, je ne supporterai plus que vous mettiez comme ça en porte-à-faux par rapport à ma parole et à mon autorité, et j'entrerai en jugement contre vous. Et c'est ce qu'on vit, et c'est ce qu'on voit actuellement. Et vraiment, la parole de Dieu nous enseigne ces choses-là. Et une manière de voir comment les choses évoluent, une manière de voir comment les choses se passent, bien, c'est d'étudier Israël. On sait que des blocs de temps ont été donnés, on a déjà étudié ces choses-là, on en a souvent parlé, par rapport à la création de l'épouse, hein, le temps qu'il a donné aux nations. On sait que l'homme est apparu le sixième jour, et qu'un jour est comme 1000 ans, donc on peut découper le temps de l'humanité en phases, et on peut dire, grosso modo, il faut 6000 ans pour donner une épouse à Christ. Ça commence 2000 années pour les patriarches, 2000 ans pour Israël et 2000 ans pour les nations. Ça s'étend, ça s'élargit jusqu'à remplir le monde entier. Et si on étudie ce qui s'est passé en Israël, si on voit comment les choses ont évolué, eh bien, la parole est venue, elle s'est fait connaître à un peuple qui a eu le temps de l'étudier, de la mettre en pratique. Et à partir du moment où il a commencé à se détourner de Dieu, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en inimitié avec le Seigneur, jusqu'à être totalement et complètement anéanti. Et ce qui s'est passé pour Israël, la manière dont les événements se sont enchaînés les uns derrière les autres, on peut dire que c'est exactement la même chose qui arrive aux nations. C'est-à-dire le Seigneur se donne un temps pour que le monde puisse le connaître, étudier sa parole, la mettre en pratique. Mais si après ça, il se détourne de cette parole, et s'il se met en inimitié avec Dieu, ben il va se passer exactement la même chose. Cette fois-ci, ça ne sera plus à l'échelle d'une nation, mais ça sera à l'échelle de l'humanité. Il y a quelques passages qui sont parfaitement clairs par rapport à ça. C'est-à-dire ces degrés, cette élévation dans les niveaux. Il faut qu'on prenne bien conscience de ça. On ne peut pas échapper à ça. Parce que beaucoup de gens se diraient, oui, mais des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et ceci et cela. Je dis, mais ça ne change rien au problème. Le monde a eu un temps pour le connaître. S'il n'a pas voulu s'engager dans la voie du Seigneur au bout d'un moment, même s'il se détourne involontairement, même s'il prétend ne pas connaître le Seigneur, ça ne changera rien. Au bout d'un moment, s'il persiste dans son erreur, s'il persiste dans son péché, s'il persiste à se détourner de Dieu, il connaîtra son jugement. Pourquoi ? Ben simplement parce que le Seigneur a donné un temps par rapport à ça. C'était comme pour Israël. Israël, au bout d'un moment, ben, il mélangeait tout, il faisait tout et n'importe quoi, à un point qu'à un moment donné, la parole n'était même plus enseignée. Les prêtres ne faisaient plus leur travail d'enseignement, et donc on aurait pu dire, bon, ben, le peuple n'étant plus enseigné, il n'est plus responsable. Ben, ça ne les a pas sauvés. ça ne leur a pas apporté un salut quelconque. Le Seigneur les a quand même jugés, mais parce qu'il avait fait une alliance avec Abraham, et cette alliance était perpétuelle, perpétuelle pour le peuple. Donc derrière, si à un moment donné le peuple commence à faire n'importe quoi sous le prétexte qu'il n'est pas au courant et qu'il ne savait pas, ben, ce n'est pas les chefs qui ont été jugés, c'est le peuple en entier. Pour illustrer ça, je veux lire Ézéchiel 5:5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois et n'a pas suivi mes ordonnances. La Bible a noté, elle commente ça comme ça, et c'est pas mal, j'ai bien aimé ça. Elle fait cette remarque très intéressante. Les autres peuples ne connaissaient ni le vrai Dieu, ni sa loi. Ils n'étaient donc pas, quand ils faisaient le mal, en révolte ouverte contre lui, comme Israël. Bien plus, ils n'en usaient pas, même avec leur faux Dieu, comme Israël le faisait avec l'Éternel. Ils les adoraient finalement, tandis qu'Israël n'a cessé d'abandonner le sien pour ceux des étrangers. Et d'ailleurs, elle précise également au sujet des versets 9 et suivants, il ne faut pas perdre de vue que, quand Israël a péri sous les coups de la puissance romaine, ils avaient cessé d'être le peuple de Dieu. Ce peuple, c'était désormais l'Église de Christ, dans laquelle le reste fidèle d'Israël avait passé tout entier. Donc on a cette caractéristique qui est propre au devoir de l'humanité, je dirais, à quelque part. Il arrive un moment donné où la lumière éclaire le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où n'importe qui peut avoir accès à l'information. Vraiment, l'Évangile a été diffusé dans le monde entier et tout le monde peut, à un moment ou à un autre, faire un choix. C'est exactement comme nous, en Occident, on peut se tourner vers le zen, vers le bouddhisme, n'importe quelle autre religion comme l'islam ou ce qu'on veut. On peut étudier ces religions, on peut étudier ces textes, ces philosophies, ces manières de prier, de faire, ces cultes, et les mettre en relation avec ce qui est marqué dans la parole, et à partir de là, faire un choix. Donc l'humanité entière peut avoir cette réflexion. Et ça en Inde, n'importe où. Si nous, on peut le faire ici en Occident, ailleurs, ils peuvent le faire aussi. Un musulman chez les Arabes, il peut aussi se poser des questions et puis essayer d'étudier ce qui se passe ailleurs. C'est valable en Inde, c'est valable au Japon, c'est valable sur la Terre entière. Donc, l'humanité aujourd'hui est confrontée avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est devenue universelle. La parole de Dieu aujourd'hui s'est répandue dans le monde entier. Donc il faut qu'elle fasse des choix. Il faut qu'elle fasse des choix par rapport à ce que le Seigneur y dit et par rapport à ce qu'ils font. Et quand il commence à basculer à droite, à gauche, en faisant tout et n'importe quoi, il arrive un moment donné où le Seigneur ne supporte plus ça. Si les hommes ne veulent pas choisir, et si les hommes systématiquement se détournent de Dieu pour aller vers le mal, à un moment donné, le coup près tombe et la sanction s'abat. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Israël, en faisant tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, ils se sont mis en inimitié par rapport au Seigneur et la sanction est tombée. La nation a été anéantie et ils ont été dispersés. Seulement, heureusement, je dirais, pour Israël, il y avait une clause de sauvegarde où le Seigneur a dit « Je conserverai un reste que je ramènerai dans le pays et qui serviront à la fois de témoignage pour les nations. » C'est un signe avant-coureur de la venue de Christ. Et aussi, ça sera, à quelque part, l'accomplissement de certaines prophéties où le Seigneur a dit « Je leur pardonnerai ». Et je répandrai mon esprit sur eux. Donc, le Seigneur, au travers d'Israël, éclaire à quelque part le monde entier. Le monde peut, au travers d'Israël, voir les choses de manière concrète. C'est-à-dire l'accomplissement de manière visible de la parole de Dieu. Israël existe, c'est un sujet de polémique et de discussion dans le monde entier. Donc n'importe qui, par rapport à Israël, peut se poser des questions et se dire, écoute, je vais voir maintenant dans la Bible si effectivement ce qui a été promis et ce qui a été dit sur ce peuple s'accomplit. Et effectivement, le Seigneur a maintes fois dit qu'il les disperserait au milieu des nations, mais qu'il les ferait aussi revenir. Et qu'Israël refleurira, que le désert refleurira, que les villes seront rebâties, et toutes ces choses-là. Et qu'à la fin, ils se tourneront vers Christ, celui qu'ils ont percé. Ça, ce sont des prophéties qui ont été annoncées. C'est une grâce pour Israël, mais au-delà d'Israël, c'est aussi une grâce pour le monde, parce que tout ce qui se fait en Israël, à quelque part, c'est le reflet de l'action que mène le Seigneur. Si Israël n'existe pas, à la limite, ce serait un acte de foi. Il faudrait croire ce qui est marqué dans la parole sans forcément voir quelque chose de concret. Mais puisqu'Israël existe, on ne peut pas faire autrement que de se dire « l'Éternel agit, il fait quelque chose et on le voit ». Donc ne serait-ce que par rapport à ça, eh bien, l'humanité est face à face par rapport à ses propres contradictions. Ils voient l'action de l'Éternel, ils voient ce que le Seigneur y fait dans le monde, et pourtant ils n'en tiennent pas compte et continuent sur leur voie. Et c'est en cela qu'il y a un mélange qui se fait. Ils ont la possibilité d'être sauvés. Certains même s'inspirent des paroles bibliques pour se dire il y a des choses en extérieur, on pourrait faire certaines choses, on mélange. Dans certaines religions, ils mélangent les différentes religions. Ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour le Seigneur. Parce qu'en faisant ça, on dilue la parole de Dieu, on l'amoindrit, et puis on la vide de son contenu. Parce que la parole de Dieu doit être prise telle qu'elle est, parce que c'est ce qui nous permet, dans sa pureté, de nous rapprocher de la pensée de Dieu jusqu'à nous superposer à elle. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on suive sa loi, c'est-à-dire ses textes, ce qui est marqué là-dedans, il faut qu'on l'applique dans notre vie. C'est la seule manière d'être sauvé. Maintenant, par rapport à l'évolution dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été faite pour Israël et qui aujourd'hui est valable pour le monde entier, ça on peut le retrouver dans d'autres textes. Dans Genèse, on peut lire ça. Et ça, ça concerne Israël. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères et dit « J'ai fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Qu'est-ce que ça signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Donc là, nous avons une image, qui est une image du peuple, hein, où il y a une symbolique, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, et qui vraiment concerne Israël. Parce que là, on parle de Jacob, de Joseph, et de ses fils. Et instantanément, Jacob, Israël, très bien compris de quoi il en retournait. Et cette image est reprise dans l'Apocalypse, mais cette fois-ci, on ne parle plus d'Israël, mais on parle du monde entier. Dans l'Apocalypse 12, « La femme enveloppée du soleil, un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. » Cette fois-ci, nous avons l'humanité entière qui apparaît en gloire. Cette fois-ci, elle s'est accaparée, la parole de Dieu, parce qu'elle est telle Christ, elle est telle la seconde partie de l'époux, c'est l'épouse qui apparaît. Elle est enveloppée de soleil. Cette fois-ci, elle est vraiment immergée dans la parole de Dieu. La parole rayonne. C'est la gloire de Dieu même qui rayonne au travers de l'épouse. Donc on se rend compte qu'il y avait une image qui reposait sur un peuple et puis que cette image a pris son essor avec les nations jusqu'à envelopper l'épouse qui est issue des nations. Et ce qui existe pour l'épouse existe également de l'autre côté. L'ennemi de l'épouse, la bête. Dans Daniel, on peut lire ça. J'ai contemplé des visions dans la nuit. Voici, les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. Ces quatre bêtes, c'était des bêtes qui étaient des nations, en fait, qui allaient à chaque fois absorber Israël. On a eu Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce. C'était les royaumes à venir et qui étaient directement en relation avec Israël. C'était ces royaumes qui envahiraient le monde et absorberaient le peuple. Et là encore, d'une dimension qui touche la nation, ça va prendre son essor avec le temps jusqu'à englober le monde entier. Et là, de nouveau, dans l'Apocalypse, on peut lire ça. « Alors je vis sortir de la mer une bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, sur les cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec des pattes comme celles d'un ours, la gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui transmissit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Cette fois-ci, nous sommes dans la dimension universelle. Nous sommes donc là, au début, quelque chose qui est localisé autour d'Israël, et brusquement, ça commence à prendre une dimension toujours plus grande, toujours plus grande, toujours plus grande, jusqu'à prendre, à un moment donné, à la fin des temps, une dimension qui touche la planète entière. Nous avons donc l'image de la mer, c'est les nations. Nous avons toujours quelque chose qui sort de la mer, mais qui, avec l'évolution, à un moment donné, ça touche Israël, à la fin, ça touche le monde entier. Ça touche la planète entière. Nous avons donc quelque chose qui s'extraira du milieu des nations pour dominer sur les nations. Nous avons donc là vraiment des images qui montrent que la Bible, c'est quelque chose qui ne s'adresse pas uniquement à Israël. Ce n'est pas une loi qui a été écrite, ce n'est pas des livres qui ont été écrits uniquement pour un peuple, mais c'est un livre qui a été écrit pour l'humanité entière. Parce que lorsqu'on parle du Machia, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ça s'adresse au monde entier. Et le monde ne peut pas échapper à ça. Le monde ne peut pas se dire comme ça, voilà. Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une autre religion. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Il y a une dimension universelle qui aujourd'hui touche le destin de l'humanité. Et quoi qu'elle fasse, elle est confrontée à la parole de Dieu. Dieu a dit que les choses seraient ainsi et les choses sont ainsi. Donc tout ce qu'on voit autour de nous, c'est des choses qui ont été annoncées. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une certaine dynamique, d'une évolution qui s'est faite par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. D'un côté, on se rend compte qu'il y a un peuple qui se forme et qui est la nation de l'Éternel, qui est le peuple de l'Éternel. Et au début, ça concernait Israël, et à la fin, ça concerne le monde entier. Mais il y a aussi une opposition qui se fait de l'autre côté, qui prend une dimension universelle et qui, à quelque part, se retrouve confronté, se met en opposition et se ligue même à un moment donné contre Dieu. Et alors, il y a une guerre qui se fait entre le monde entier et entre l'Éternel. Et nous, son peuple, il faut que nous nous unissions aussi dans la même pensée afin de nous mettre en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous protège. Il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche l'humanité entière. Les catastrophes, les nations qui se mettent ensemble et toutes ces choses-là, c'était prévu dans les Écritures. Ça concerne le monde entier, donc ça nous concerne nous aussi. Avec une particularité pour Israël, qui est une promesse très particulière qui a été faite à ce peuple-là. Mais aujourd'hui, nous devons prendre en considération tout ce qui se passe, le prendre pour nous-mêmes, et nous dire, finalement, si toutes ces choses que nous voyons, elles arrivent, tant mieux, je dirais, parce que ça veut dire que Jésus revient bientôt et que nous allons être sauvés. Donc voilà, c'est ce que j'ai extrait de la parole pour nous mettre en confiance par rapport à elle-même, par rapport aux événements, parce que quand on regarde des événements, on peut être effrayé, mais on n'a pas à être effrayé parce que ça a été annoncé. On sait que ça va se développer et que ça va prendre une dimension universelle parce que les choses vont monter progressivement en puissance. Et ça prend une dimension universelle parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu a pris aussi sa place dans le monde entier. Et qu'il faut toujours regarder les choses par rapport à ce que enseigne la parole de Dieu. Donc, ne nous effrayons pas, restons confiants. Prenons tout ce qu'il y a dans le premier psaume pour nous-mêmes, et alors tout ce qu'il y a dans le deuxième psaume, à quelque part, nous rassurera. Parce que si il y a du tumulte au milieu des nations, et si les gens se mettent en opposition par rapport au Seigneur, ce n'est rien de plus que l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors si ce qui s'accomplit dans le psaume 2 est vrai, alors forcément, ce qui est marqué dans le psaume 1 l'est aussi. Et si nous restons proches du Seigneur, et si nous lui obéissons et si nous le suivons, nous serons comme des arbres plantés auprès d'un cours d'eau. Donc on remet ça au Seigneur. Voilà, mon Dieu, comment nous devons appréhender les choses. C'est-à-dire par le travers de ta parole. En nous appuyant sur elle et en nous confortant sur ton verbe. Parce que Quand on regarde les informations, quand on écoute les gens autour de nous, on peut prendre peur et on peut être dans la crainte. Mais savons, mon Dieu, que si nous nous appuyons sur toi, si nous appuyons sur ton verbe, si ton esprit nous guide, nous remplit, nous serons vainqueurs de toutes ces choses-là. Et non seulement nous ne devons pas les craindre, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous réjouir et relever la tête. Parce que nous savons que tu es en guerre, tu agis, tu entres en jugement. Et si tu le fais, c'est pour finalement soulager ce monde, le soulager de son péché, de sa méchanceté et lui apporter la paix. Alors Maranatha, Yeshua, reviens et règne sur nous. En ton nom, Yeshua.